Alors ce matin, j'avais envie de partager avec vous un texte 30 ans après la naissance de Jésus environ. Donc on est au tout début, en fait, de son ministère. Et dans ce début du ministère, ce qui m'a surpris, c'est que vous avez, dans Luc 4, la tentation de Jésus. Et c'est de ces versets que je vais vous parler, de cette tentation de Jésus comme étant un encouragement pour nous, parce qu'on voit combien Dieu est fidèle et combien Jésus peut nous comprendre. Mais au-delà de ça, ce qui m'a frappé, et ça c'est parce que les jeunes nous font lire l'évangile de Luc, et puis un peu à cause d'eux, j'ai relu un peu vraiment de manière complètement suivie cet évangile. Enfin, je ne suis pas encore tout à fait au bout parce que je progresse un peu en même temps qu'eux. Mais ce qui m'a frappé, c'est qu'avant Luc 4, bien sûr, il y a Luc 3, mais qu'est-ce qu'il y a à la fin de Luc 3, avant la tentation de Jésus-Christ? Dites-moi, qu'est-ce qu'il y a avant la tentation de Jésus-Christ? Et c'est ça qui m'a surpris. Alors, il y a une chose qui m'a vraiment surpris, c'est que juste avant, il y a la généalogie de Jésus-Christ. Et il y a toute la généalogie, et il est dit, alors je ne vais pas vous la lire, vous pourrez la lire chez vous, hein, il y a des noms, et j'ai peur de mal les prononcer, hein. Il y a Matthat, il y a Eliakim, etc., dans la généalogie. Et puis, à la fin, il y a fils d'Adam, fils de Dieu. Fils d'Adam. Et si je prends dans l'évangile de Matthieu, on voit que c'est beaucoup plus logique. La généalogie de Jésus-Christ, elle est au début, quand il naît, avant sa naissance. Là, on dit, ben voilà, on a la généalogie de Jésus-Christ. Là, elle intervient. Mais il y a l'histoire de Jean-Baptiste, il y a etc. Je me suis dit, mais c'est quand même un peu bizarre. Puis, on remonte un tout petit peu dans le texte. Qu'est-ce qu'il y a avant la généalogie de Jésus-Christ? Eh bien, il y a le baptême de Jésus. Le baptême qui signifie en fait le début de son ministère, vraiment son ministère terrestre, son entrée dans le ministère. Et ce qui m'a frappé aussi dans ce baptême de Jésus, c'est que par la grâce de Dieu, Dieu nous montre que, en fait, le Saint-Esprit descend sur Jésus sous la forme d'une colombe. Donc, on voit que le Saint-Esprit est là. Mais en plus, il n'y a pas que le Saint-Esprit. Il y a aussi Dieu le Père. Dieu le Père qui va s'exprimer. Une voix se fit entendre du ciel ses paroles. « Tu es mon Fils bien-aimé, tu as toute mon approbation. » Donc, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont présents à ce moment-là. Alors pourquoi est-ce que je vous rappelle un tout petit peu tout ça? Ben, je vais vous lire maintenant Luc 4, 1 à 13, et vous verrez l'éclairage que donnent juste ces quelques versets précédents. Ça éclaire finalement la tentation de Jésus-Christ de manière peut-être un tout petit peu plus explicite aussi. Alors je lis Luc 4, 1 à 13. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces 40 jours-là. Et quand cette période fut passée, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres de devenir du pain. » Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. Le diable l'emmena plus haut, sur une haute montagne, et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Puis il lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Jésus lui répondit, « Retire-toi, Satan. En effet, il est écrit, « C'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, et c'est lui seul que tu serviras. » Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, « Il donnera à ton sujet ordre à ses anges de te garder, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui répondit, « Il est dit, tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. » Alors, après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Dans ce texte que je vous ai lu, alors bon, vous avez vu un tout petit peu en filigrane ce qu'il était dit avant. C'est intéressant quand même de savoir ce qu'il a dit juste avant. Hein. Mais dans le texte que nous avons lu, nous avons en fait trois personnages, peut-être quatre, peut-être plus. Mais en tout cas, de manière explicite, on a le Saint-Esprit, on a Jésus, on a Satan. Est-ce qu'on a le Père? On y répondra peut-être à la fin. Peut-être une question qu'on peut se poser. Le Saint-Esprit, on le voit, il est clairement exprimé. Le Saint-Esprit conduit Jésus dans le désert. Parfois, c'est vrai que dans nos circonstances de vie, qu'on soit jeune ou moins jeune, on traverse des déserts. Mais cela ne veut en aucun cas dire que nous ne sommes pas dans la volonté de Dieu. Parce que là, c'est explicite. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Une situation qui n'est pas facile. Il fait à la fois chaud, on peut avoir soif, on peut avoir froid la nuit. Donc c'est une situation qui est vraiment difficile. Et nos circonstances peuvent être aussi particulièrement difficiles. Mais c'est un encouragement pour nous de dire, même quand on vit dans des circonstances difficiles, ça ne veut pas dire qu'on est hors du plan de Dieu. Ça peut arriver, mais ce n'est pas systématiquement le cas, et on n'a pas à être. On a à rechercher Dieu, la présence de Dieu, simplement. Et rappelons-nous que le but de l'épreuve, c'est révéler le cœur de l'homme. Et là, le cœur de Jésus, qui est vraiment en complicité avec le Père, nous est révélé. Ce qui nous est révélé aussi, le but de l'épreuve, c'est ce qui est révélé, c'est la confiance qu'on peut avoir et la foi qu'on peut avoir en Dieu. Là, on voit de nouveau Jésus-Christ en pleine intimité avec Dieu, en pleine confiance. On voit aussi dans l'épreuve la fidélité de Dieu. On le verra peut-être à la fin, la fidélité du Père. Et puis, l'épreuve nous montre aussi l'authenticité des promesses de Dieu. Ce que Dieu promet, il l'accomplit. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est une réalité. Alors, c'est parfois pas facile de trouver ce repos. Mais venez, appuyez-vous sur moi. Maintenant, il y a un deuxième personnage qui traverse tout ce texte, c'est Satan. Et la tactique qui est employée par Satan. Les tentations qui sont décrites ici s'adressent à l'homme tout entier, son corps, son âme, son esprit. L'épreuve est donc totale parce que l'homme, bien sûr, doit se nourrir. L'homme veut souvent, pas toujours, mais souvent rechercher sa gloire et veut rechercher le pouvoir. L'homme peut mettre en doute les promesses de Dieu. Et on voit que ces différents aspects sont les attaques, finalement, que Satan adresse à Jésus. Après 40 jours, on comprend tout à fait qu'on a un besoin légitime et naturel de se nourrir. Mais Jésus reste vraiment dans la dépendance de Dieu. Il enseignera dans le Notre Père, « Donne-nous notre pain quotidien ». Et il sait que tout vient du Père. Et dans sa prière, il soulignera aussi que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Jésus reste dans une relation étroite avec le Père. Il est à noter que il y a un autre peuple dans l'Ancien Testament, ou il y a un peuple dans l'Ancien Testament qui a été dans le désert bien longtemps. Mais qu'est-ce qu'il a été râleur? Qu'est-ce qu'il n'a pas demandé? Et qu'est-ce que Dieu n'a pas fait pour lui? Même ses souliers ne s'usaient pas, ses vêtements ne s'usaient pas. Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait? Il voulait à manger, il a eu la manne, une espèce de pain comme ça. Ça ne suffisait pas, il voulait de la viande, il a eu de la viande. Qu'est-ce qu'il a pas râlé? Et moi, dans mon épreuve, dans mes épreuves, dans mon vécu, est-ce que je suis un râleur? Ou est-ce que je me souviens que Dieu me donne mon pain quotidien? Que c'est une grâce. Et puis, dans la tactique de Satan, il y a mettre en doute ce que Dieu déclare. Voyez, et c'est pour ça que je voulais vous citer un tout petit peu ce qu'il y avait avant la tentation de Jésus. Parce qu'il est dit à plusieurs reprises, si tu es le Fils de Dieu, si tu es le Fils de Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Juste le chapitre précédent, on le voit. Qu'est-ce qu'il a été dit? Une voix se fit entendre du ciel, fit entendre ses paroles. Tu es mon fils bien-aimé, tu as toute mon approbation. Le fils bien-aimé. Le Père l'a affirmé. Et Satan met en doute ce que Dieu affirme. Et ça, ça a été dès le commencement. Cette tactique, elle a été dès la Genèse. Et on peut parcourir toute la Bible. Dès le commencement, Dieu a-t-il réellement dit? Mais non! Mais vous allez être comme des dieux, vous allez être merveilleux, encore plus beau que ce que vous êtes. Mais mangez, désobéissez. Alors il n'a pas dit comme ça. Il dit, mais ce sera beaucoup mieux. Dieu a-t-il réellement dit que vous ne deviez pas? Dieu a-t-il réellement dit? Et puis on voit aussi que dans Job, Job a été un homme intègre et droit. Mais Satan a émis des doutes quant à cette droiture. On voit qu'il émet toujours des doutes. Pourtant, Dieu a affirmé, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Il est sincère, il est intègre et il est droit. Ouais, mais c'est parce que tu lui donnes des faveurs, tu lui fais des faveurs. Il est intéressé, c'est pour ça. Mais Dieu connaît le cœur de l'homme. Mais Satan est chaque fois là, comme accusateur ou comme semant des doutes. Et puis Satan fait aussi des promesses. Il fait les promesses suivantes dans ce texte. Il promet de donner, au fond, le pouvoir. Et il est dit, voilà, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Où est-ce que vous avez lu que vraiment Dieu a donné tout pouvoir à Satan? Moi, je n'ai jamais lu ça. Par contre, ce qu'on se rend compte, c'est que Satan est un voleur. Il est un menteur et effectivement, il a usurpé un pouvoir. Mais ça ne veut pas dire qu'il l'ait vraiment. Dieu est souverain, Dieu est le créateur et tout appartient au Seigneur. Toute la création appartient au Seigneur. Et d'ailleurs, le Père a promis au Fils, dans une prophétie dans le psaume 2, je vous le lis, « C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte, je publierai le décret, l'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession, tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage. » Donc ça n'appartient pas à Satan de manière légitime. C'est du vol. C'est un gros mensonge. Et puis il y a cette volonté de nous détourner de Dieu. De Dieu seul, détourner notre regard de Dieu, provoquer Dieu et maîtriser notre vie, notre mort aussi. Satan d'ailleurs interprète la parole de Dieu de manière très particulière. Il prend le psaume 91, Mais le psaume 91, c'est une promesse du secours de Dieu quand on est dans la détresse. Et ce n'est pas du tout une invitation à provoquer Dieu, à faire que Dieu fasse notre volonté. C'est lorsqu'on est dans la détresse, eh bien on crie à Dieu et on a une attitude de foi. On ne peut pas mettre Dieu dans une boîte et le soumettre simplement à notre volonté. Henri Briand a dit la chose suivante, c'est un pasteur, professeur aussi, « L'attitude de la foi consiste à accepter que Dieu est Dieu et à lui laisser le gouvernement de l'univers sans avoir tout compris. » Mais lisons ce psaume 91 auquel Satan fait allusion. Psaume 91, je vous le lis. C'est un magnifique psaume qui nous encourage, lorsqu'on est dans la détresse, à compter sur le Seigneur. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, « Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Oui, c'est lui qui te délivre du piège de l'oiseleur et de la peste dévastatrice. Il te couvrira de ses ailes et tu trouveras un refuge sous son plumage. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne redouteras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole pendant le jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni le fléau qui frappe au plein midi. Si 1000 tombent à côté de toi et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ouvre seulement les yeux et tu verras la punition des méchants. Oui, tu es mon refuge éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il donnera ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Il marchera sur le lion et sur la vipère. Tu piétineras le lionceau et le dragon, puisqu'il est attaché à moi. Je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il fera appel à moi et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je l'honorerai. Je le comblerai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. La protection divine face au danger et pas le fait de se mettre en danger pour provoquer Dieu, pour provoquer l'intervention de Dieu. Et j'aimerais vous lire ici un témoignage qui est tiré du livre « À chaque jour suffit sa grâce ». Donc c'est un livre qui est apparu il y a une année ou deux. Et c'est un magnifique témoignage sur ce psaume 91 et sur la manière dont il a parlé. Il peut parler encore aujourd'hui. « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » William MacDonald est né en 1917, il est décédé en 2007, ancien président de l'Institut biblique Emmaüs aux États-Unis. Il est l'auteur de plus de 80 livres, dont plusieurs cours d'ailleurs par correspondance, traduits dans des dizaines de langues. L'un des plus répandus est Le vrai disciple. Ce livre a interpellé des milliers de chrétiens sur tous les continents et a été traduit dans une trentaine de langues. Opération Mobilisation en a fait la promotion après sa traduction en français, entre autres parce que Georges Verwer, fondateur d'OM, est un étudiant de MacDonald. L'œuvre qui a couronné son ministère est le commentaire biblique du disciple. Ce gros volume de 2600 bases a été traduit en plusieurs langues. L'auteur a introduit une explication du psaume 91 par un témoignage personnel concernant ce verset. « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » En 1922, dans les Hébrides occidentales, un petit garçon de 5 ans était en train de succomber à la diphtérie. Une membrane obstruait sa gorge et rendait sa respiration de plus en plus pénible. Sa mère, qui était chrétienne, se détourna pour ne pas voir son enfant rendre son dernier soupir. À cet instant, quelqu'un frappa à la porte. C'était son beau-frère, venu d'un village voisin. Il lui dit, « Je suis simplement venu te dire de ne pas t'inquiéter au sujet de l'enfant. Il guérira, et un jour Dieu sauvera son âme. » La mère demanda incrédule, « Qu'est-ce qui te permet de dire cela ?» Il expliqua qu'il était assis au coin du feu, lisait le psaume 91, quand Dieu lui parla clairement à travers les trois derniers versets. « Puisqu'il est attaché à moi, je le délivrerai, je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il fera appel à moi et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je l'honorerai. Je le comblerai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. » Le 12 février 2008, 500 personnes ont assisté à une cérémonie d'action de grâce en Californie afin de remercier le Seigneur pour toute la vie et le témoignage, le ministère de cet homme de Dieu. Il peut en effet nous arriver que la parole de Dieu nous parle de manière très forte, comme pour cet homme. Laissons-nous saisir par Dieu, c'est vrai. Et c'est vrai qu'une fois, j'ai été saisi par ce psaume 121, par le dernier mot, les derniers mots, « L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. » C'était le départ pour la gloire de ma maman. J'ai prié avec elle, j'ai dit, « L'Éternel gardera ton départ d'ici-bas jusqu'à ton arrivée dans sa présence. » C'était évident que je devais lui dire ça. On a prié, elle est partie dans la soirée. Mais est-ce que je suis vraiment parti avec Dieu aujourd'hui? Est-ce que mon départ, je sais que je suis dans sa main? Si c'est le cas, il me gardera jusqu'à mon arrivée dans sa présence, comme je sais qu'il a gardé ma mère. En fait, ces versets que nous avons lus concernant la totation de Jésus-Christ, c'est une invitation à vivre dans la dépendance de Dieu. Les totations sont là pour tous, mais Jésus est bien présent. Et il nous le rappelle dans sa parole, notamment dans Hébreux 4, les versets 15 et 16, « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru de nos besoins. » De trouver grâce pour être secouru de nos besoins. Je reviens à Jésus. Jésus reste en lien avec le Père, dans sa dépendance. Et on le voit à travers tous les évangiles. Combien de fois Jésus s'est mis à l'écart pour prier? Je ne me suis pas amusé à le faire, mais il faudrait que je le fasse une fois. De souligner chaque fois que Jésus a pris du temps pour être à l'écart avec son Père. Je pense que c'est un des secrets de notre dépendance de Dieu. Jésus réfute les arguments de Satan par la parole de Dieu et par les promesses que Dieu fait. Et qu'est-ce que Jésus affirme, haut et fort? Tu ne chercheras pas à forcer la main du Seigneur ton Dieu. Tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. Dieu est Dieu et Dieu est souverain. Et puis maintenant, je vous ai posé la question, est-ce que Dieu le Père, est-il là, est-il présent? Là, on ne sait pas. D'après cet évangile, en tout cas, on ne le sait pas. D'après un autre évangile, on peut le supposer. Dans Matthieu 4, on lit la chose suivante. Il y a aussi toute la tentation de Jésus-Christ dans Matthieu 4. Mais à la fin, il est dit, « Alors le diable laissa, et voici que des anges s'approchèrent de Jésus et le servirent. Et moi, je me pose la question, en fonction du psaume 91, en fonction de ce qui est dit là, qui donc a envoyé ces anges? Est-ce que ce n'est pas le Père qui est là? Qui est là? Qui est vraiment présent? On peut en tout cas le supposer. Et pour nous, Christ est là, il nous a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais le Père est aussi bien présent. Il sait quand on se lève, il sait quand on s'assied. Quoi qu'on fasse, il nous connaît. Ça, c'est le psaume 139 qui nous le dit. Et c'est vrai que c'est souvent, ou je vais dire parfois, nos désirs, notre orgueil, notre recherche de gloire qui nous guident et qui nous détruisent. Et c'est cette manière aussi qu'a Satan d'attaquer les enfants de Dieu. Ne lui laissons pas ce terrain favorable. La seule réponse possible, notre dépendance de Dieu. Si nous croyons à l'œuvre de Christ à la croix, nous sommes enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants de Dieu, bien Dieu est notre Père et il veut s'occuper de nous. Il veut nous prendre par la main. En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Car si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin de prendre aussi part à sa gloire. Romains 8, 16 et 17. Et pour terminer, n'oublions jamais ce texte. Ce texte d'Hébreux 4, 16 que j'ai déjà cité. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Appuyons-nous sur la fidélité de notre Dieu.